Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
J'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille.
5 mois et puis s'en va, la maire de Marseille, Michèle Rubirola, démissionne notamment pour raisons de santé. L'élu écologiste veut céder son fauteuil à l'actuel premier adjoint, le socialiste Benoît Payan. Mais cela risque de ne pas être aussi simple. Sitôt déconfiné, il faudrait s'auto-confiner une semaine avant les fêtes. Voilà ce qu'a conseillé Jean Castex ce matin sur Europe 1. Le Premier ministre recommande de ne pas envoyer les enfants à l'école jeudi et vendredi. Message qui a du mal à passer auprès des parents. Nos voisins européens, eux, n'ont pas le choix face à la flambée des cas. Les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Allemagne reconfinent à tout va. Dans ce journal également, l'opposition coincée, pour ne pas dire embêtée, par la proposition de référendum d'Emmanuel Macron. Free lance à son tour son forfait 5G, 3 fois moins cher que la concurrence. Normal, c'est de la 4G maquillée, on va tout vous expliquer. Et puis le Vendée Globe avec des avaries en cascade pour les skippers. Le temps de demain, plus ensoleillé, avec toutefois de nombreux brouillards matinaux et des températures toujours douces, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir à l'équilibre, plus 0,04% à 5530 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamaud de Boursier.com. L'interview écho, dans 20 minutes, les cars Flixbus vont reprendre la route pour Noël. Son directeur général Yves Lefranc-Morin sera tout à l'heure l'invité d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Elle avait répété tout au long de la campagne que son objectif personnel n'était pas de devenir maire de Marseille. Michèle Rubirola aura donc tenu 164 jours à la tête de la deuxième ville de France. L'élu écologiste a annoncé sa démission cet après-midi et en a expliqué les raisons.
J'ai connu avant l'été les premières difficultés liées à ma santé. J'ai dû subir à la fin du mois de septembre une intervention chirurgicale et j'ai été transparente sur ce sujet. Ces épreuves ne m'empêchent pas de servir les Marseillaises et les Marseillais, mais elles limitent l'énergie que je peux mobiliser. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai profondément réfléchi, j'ai consulté, j'ai examiné les options qui se présentent à nous. Et c'est pour ces raisons que j'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille. Et c'est aussi, pour moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas en politique d'hommes ou de femmes providentiels. Nous sommes une équipe, j'ai toujours parlé de collectif et je sais que cette réalité déconcerte et interroge. Je sais que le duo que nous formons avec Benoît Payan intrigue. Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue mais s'inverse. Et que Benoît devienne maire.
Michèle Rubirola, à votre micro, Stéphane Frangy, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Marseille qui, après l'un des mandats les plus longs, celui de Jean-Claude Gaudin, vient de vivre l'un des mandats les plus courts.
Oui, elle sera restée moins de 6 mois en poste et ce n'est pas une si grande surprise ici finalement, tant les indices se sont multipliés, la rumeur prenait vraiment de l'ampleur au fil des semaines. Michèle Rubirola s'était déjà retirée provisoirement, on vient de l'entendre à la rentrée pour raisons médicales et puis il y a eu ces indiscrétions parues dans le journal Le Monde. Elle aurait par exemple confié lors de la campagne électorale qu'elle ne comptait pas rester dans ce fauteuil de maire plus de 3 mois. Et la grande question maintenant c'est que va-t-il se passer? Le nouveau maire doit être élu en conseil municipal, le prochain est justement prévu pour lundi qui vient. Et puis, inverser les rôles avec le premier adjoint, Benoît Payan, ça ne sera pas aussi simple, car il ne fait pas l'unanimité, notamment en raison de son étiquette socialiste. Dans cette union de partis de gauche qui compose une courte, une fragile majorité au sein de l'hémicycle marseillais, des voix s'élèvent déjà au sein de l'opposition pour dénoncer une manœuvre politique, un hold-up. L'extrême droite demande même que les Marseillais soient rappelés aux urnes.
Affaire à suivre donc. Merci Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Depuis un peu plus de 2 heures maintenant, nous sommes de nouveau sous le régime du couvre-feu, interdiction de sortir de chez soi et de circuler entre 20h et 6h du matin, sauf exception. La France n'est donc officiellement plus confinée, mais les Français, eux, sont invités à s'auto-confiner, comme l'a demandé ce matin sur Europe 1 le Premier ministre Jean Castex.
Si vous le pouvez, d'ailleurs c'est ce qui se pratique dans certains pays étrangers, dans beaucoup, auto-confinez-vous 8 jours avant Noël. Si vous le pouvez, ce n'est pas possible.
Mais vous appuyez cette recommandation ?
Bien entendu, à chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables. Le conseil scientifique, je veux dire qu'on l'appuie, a même dit, si vous pouvez ne pas amener vos enfants à l'école jeudi et vendredi, c'est la période de 8 jours, vous le faites. Ce n'est pas une obligation. on dit des recommandations.
Jean Castex ce matin au micro Europe 1 de Sonia Mabrouk. Le Premier ministre qui, on vient de l'entendre, appelle les parents qui le peuvent à ne pas amener leurs enfants à l'école jeudi et vendredi. Absence tolérée tant que les établissements scolaires sont prévenus à l'avance. Arthur Mbaché, vous êtes notre correspondant à Strasbourg. Est-ce que chez vous, les classes seront vides en fin de semaine ?
Plutôt pas. J'ai cherché, croyez-moi, des familles prêtes à saisir cette opportunité. J'ai trouvé différentes raisons de ne pas en profiter. On travaille tous les deux, pas possible, pour être tranquille sans les enfants.
On ira à l'école normalement.
Je vais les mettre à l'école.
Et vous pourriez les garder ou pas ?
Oui, je pourrais les garder.
Maman !
Je vais mettre mon fils à l'école, comme tous les jours jusqu'à présent. Voilà.
Parce que vous pouvez pas le garder ou...
Parce que je dois faire mes cadeaux de Noël.
Voilà, ça c'est une bonne raison. Vous avez aussi des parents qui assurent faire ça pour le bien de leurs enfants.
Oui, ça serait possible, mais je préfère qu'ils vont à l'école. Et c'est important pour eux. Ils sont beaucoup perdus, je trouve, depuis le confinement de mars. Et je suis d'accord que bien même 2 jours, ça compte pour eux.
Mais pourquoi à l'école ? Pourquoi je n'irai pas à l'école ?
Parce que c'est possible de ne pas aller à l'école jeudi et vendredi.
C'est possible, mais en fait, pour des raisons pratiques, nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'en fait, on ne fait pas de rassemblement familial.
Toi, tu aurais préféré ne pas aller à l'école ?
Bah oui.
Bon, bonne fin de semaine quand même.
Ouais, merci aussi.
Merci à vous. Bon, l'avantage pour tous les petits qui retournent à l'école en fin de semaine, c'est que vendredi après-midi, eux pourront dire, et c'est important, joyeux Noël maîtresse.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. Strasbourg, où comme un peu partout en France, le monde de la culture s'est mobilisé aujourd'hui. Intermittents du spectacle, acteurs, musiciens, directeurs de théâtres et de musées se sont rassemblés pour dénoncer la prolongation de la fermeture des lieux culturels. Les syndicats ont annoncé qu'ils allaient demain saisir le Conseil d'État pour demander la réouverture des salles au plus vite. Le vaccin de Moderna contre le Covid ne présente pas de problème de sécurité spécifique, selon l'Agence américaine des médicaments. La FDA doit se réunir jeudi pour décider de son autorisation en urgence. Ce vaccin pourrait donc devenir le deuxième à recevoir le feu vert aux États-Unis après celui de Pfizer, dont les premières doses sont administrées depuis hier outre-Atlantique. Chez nous, en revanche, on n'en est pas encore là. L'Agence européenne des médicaments va se réunir lundi prochain, le 21 décembre, pour prendre une décision concernant le vaccin Pfizer. Réunion qui a été avancée d'une semaine suite aux pressions du gouvernement allemand qui s'impatiente face à la lenteur du processus. Il faut dire que le temps presse, tant la situation se détériore chez plusieurs de nos voisins, où de nouvelles restrictions vont ou viennent d'entrer en vigueur, Pierre Herbulot.
Oui, comme aux Pays-Bas sous cloche depuis ce matin et pour les 5 prochaines semaines, confinement strict à la française avec fermeture de tous les commerces non essentiels, mais aussi des écoles. En Allemagne, c'est quasiment pareil à partir de demain, avec... En plus, une interdiction de vendre de l'alcool sur la voie publique et donc la fermeture de tous ces stands de vins chauds qui ont fleuri ces derniers jours à Berlin, une tradition de fin d'année. Même logique au Royaume-Uni, Londres et certaines régions du Sud-Est passent en alerte de niveau 3 après une très forte recrudescence de cas. Fermeture des hôtels, pubs et restaurants qui avaient rouvert partiellement. Pour autant, les regroupements sont possibles pour Noël, mais en petit comité, 3 foyers maximum. C'est 2 de plus qu'en Lituanie, qui interdit tout rassemblement à partir de demain et jusqu'au mois de janvier. 250 barrages routiers sont en train d'être installés pour contrôler les déplacements. Enfin, le Danemark, déjà aux 2/3 confiné depuis la semaine dernière, va étendre après-demain ses restrictions à l'ensemble du pays.
Pierre Herbulot.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
L'annonce d'Emmanuel Macron avait provoqué hier soir un blanc de stupéfaction au sein des membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le président souhaite un référendum pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Or, avant de pouvoir consulter les Français sur la modification de cette loi fondamentale, il faut le feu vert de l'Assemblée et surtout du Sénat dominé par la droite. Et ce sera loin d'être évident, Adrien Beck, car tout le monde au sein de l'opposition n'a pas forcément envie de donner un blanc-seing cette fois au chef de l'État, même pour une bonne cause.
Exactement, c'est le « en même temps », la ligne de crête des oppositions. Difficile de ne pas s'afficher pro-écologie, mais difficile aussi d'aider Emmanuel Macron à organiser ce référendum. Voilà donc la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Ce référendum n'en est pas un.
C'est-à-dire que nous, on croit au référendum, pas au plébiscite. Il demande aux Français, dites que M. Macron est un défenseur de l'environnement. La réponse est non.
Une position assez isolée à gauche. Par exemple, au PS, on avait déjà proposé d'inclure la biodiversité dans la Constitution. Difficile maintenant de dire l'inverse. Au fond, la position la plus attendue, c'est celle de la droite, majoritaire au Sénat. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, se garde bien de sortir du bois dès maintenant.
Pas d'a priori, je ne peux pas faire de procès d'intention. Simplement, j'attends
Nous attendons d'avoir le texte final. Ça ne doit pas être une convenance politicienne pour le président de la République en difficulté sur le sujet de l'écologie.
Il n'empêche, peu probable que le texte proposé par le chef de l'État trouve grâce aux yeux des sénateurs. Ici, résume l'un d'eux, personne n'a envie de faire de cadeau à Emmanuel Macron.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Le Beauvau de la sécurité en janvier se tiendra sans deux des principaux syndicats de policiers. Alliance et l'UNSA l'ont fait savoir dans un courrier envoyé à l'Élysée. Un énième séminaire sans mesures concrètes au préalable serait jugé indécent, justifie le secrétaire général d'Alliance, qui pose trois conditions au préalable de toute discussion. Une peine minimale incompressible pour les agresseurs de policiers, le floutage des policiers filmés et des mesures sociales, dont la gratuité des transports. La deuxième vague et le confinement de novembre devraient entraîner la suppression de 300 000 emplois d'ici la fin de l'année. Estimation de l'INSEE qui table en revanche sur un rebond de 3% du PIB au premier trimestre 2021. Le retour de la croissance est justement ce qu'espère Free. L'opérateur a révélé aujourd'hui son offre 5G avec un forfait qui en apparence bat à plate couture la concurrence. Sauf que ce n'est pas aussi beau que ça en a l'air, Clément Le Saffre.
Oui, il faut le dire, en apparence, la 5G de Free, elle est très très sexy. Dès le premier jour, l'opérateur annonce une couverture de 40% du territoire et surtout un forfait 150 gigas de données à 20 euros seulement. C'est trois fois moins cher que les forfaits équivalents d'Orange, SFR et Bouygues. Et c'est Xavier Niel lui-même qui s'est mis en scène dans une publicité très relayée depuis ce matin.
Le forfait 5G sera beaucoup plus cher que le forfait 4G ?
Pas de conneries. Chez Free, la 5G, c'est inclus pour le même prix.
Voilà, du Xavier Niel dans le texte, sauf que la réalité n'est pas aussi reluisante que les promesses du patron de Free. Si l'opérateur peut casser les prix et couvrir une large partie de la France, c'est parce qu'il triche un peu dans les faits. 96% des antennes de Free diffuseront une 5G au rabais, une 5G low cost en fait. Là où les autres opérateurs utilisent des fréquences de 3,5 GHz, celles qui sont dédiées à la 5G, et celles qui offrent donc un débit très rapide, Free, lui, va diffuser la 5G sur les fréquences 700 GHz, celles déjà utilisées par la 4G et qui sont donc très encombrés. En fait, ça revient un peu à faire rouler une Ferrari en centre-ville, ça n'a pas grand intérêt. Résultat, le débit sera à peine plus rapide que celui de la 4G actuelle. Il y aura quand même écrit 5G, mais ça n'ira pas plus vite. C'est une astuce qui est légale, elle va permettre d'ailleurs à Free d'attirer des clients forcément. La seule obligation, c'est d'informer les consommateurs. Il y a donc une carte en ligne sur le site de Free. Chaque opérateur en a fait une, mais ce n'est pas toujours très clair. Il y a des couleurs qui se confondent. Donc pour ne pas être déçu et ne pas avoir de mauvaise surprise quand vous allumerez votre téléphone 5G, regardez bien les petites lignes.
Merci Clément Le Saffre. À l'étranger, Donald Trump de plus en plus seul dans son déni. L'un de ses plus fervents soutiens, le chef de la majorité républicaine au Sénat, a reconnu aujourd'hui la victoire de Joe Biden à la présidentielle au lendemain de la confirmation des résultats par le collège électoral américain. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram revendique l'enlèvement de plusieurs centaines de lycéens. L'attaque a eu lieu le week-end dernier dans un pensionnat. Au moins 333 adolescents sont toujours portés disparus. Les autorités locales affirment que des discussions sont en cours avec les ravisseurs. Ce kidnapping de masse ravive le spectre de l'enlèvement de 2014 de 276 jeunes filles, dont une centaine n'ont jamais été libérées. On termine avec le sport, l'Euro de handball féminin. Les Bleus ont battu ce soir les Suédoises, victoire 31 à 25, qui permet aux Françaises, tenantes du titre, je le rappelle, de se qualifier directement pour les demi-finales. Et puis le Vendée Globe avec du changement en tête de la course. Après avoir occupé la première place pendant trois semaines, Charlie Dalin n'est ce soir plus que troisième après une avarie sur l'un de ses foils. Vous le savez, ces impadices qui permettent aux voiliers de voler entre guillemets au-dessus de l'eau. Mais plus de peur que de mal pour l'ancien leader, Corinne Boulou.
Oui, Charlie Dalin a passé plusieurs heures en pleine mer à réparer une pièce essentielle au maintien de son foil, situé sur le flanc gauche de son monocoque Apivia. Elle avait lâché hier soir alors qu'il progressait au sud de l'Australie. Il a repris sa route en début d'après-midi à bonne vitesse, histoire de tester sa réparation au moment de quitter l'océan Indien pour l'océan Pacifique. Alors, l'ancien leader n'est pas le seul à faire face à des soucis techniques. Parmi les galériens du jour, Yannick Bestaven a dû grimper ce matin au mât de son voilier Maître Coq pour réparer une voile déchirée.
Voilà, une belle réparation de fête. Mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Pas déconner quand même, hein. On n'est pas des alpinistes.
Et le gros problème que j'ai, c'est les problèmes de pilote automatique. Depuis 15 jours, je suis sur le pilote de secours qui commence à faire des drôles de bruit.
J'ai dû faire tout plein d'acrobaties devant, hisser, affaler les voiles et ça m'a complètement épuisé.
Chaque jour, il y a une surprise et elle n'est pas forcément très bonne, tu vois. Donc ouais, j'ai un Vendée Globe, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi.
Oh putain, le Vendée Globe, c'est pas les vacances, hein, les gars.
Et pas des vacances pour Yannick Bestaven et les autres concurrents. Ce soir, Yannick Bestaven en deuxième position derrière le nouveau leader Thomas Ruyant, pas épargné non plus par les galères. Il navigue en tête sur son voilier Linked Out avec l'un de ses foils diminué.
Merci Corinne Boulou qui suit pour nous ce Vendée Globe. On passe à la météo, Anissa Haddadi. Le temps de demain sera plus sec.
Oui, ça y est, la perturbation que nous avions ces dernières heures sur le pays s'est complètement évacuée par l'est. Alors demain matin, nous aurons toujours de la pluie sur les reliefs Cévenols et sur la pointe bretonne. Alors là, en Bretagne, c'est une nouvelle perturbation qui arrive, je vous en parle dans un instant. Partout ailleurs, le temps est sec. De l'Alsace aux Alpes, attention demain matin aux brouillards qui seront tenaces d'ailleurs sur le Val de Saône. Dans l'après-midi, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies sur l'ensemble de la France, mais globalement, ça reste une journée agréable et bien ensoleillée. Dans le sud, attention, le vent d'OTAN souffle toujours du côté du Languedoc. Les températures matinales, elles sont toujours douces. 0 à 10 degrés demain matin, 0 à Auch, 1 degré à Clermont-Ferrand, 3 à Annecy, 7 à Paris et 10 pour Marseille. Et puis au meilleur de la journée, c'est doux et stationnaire, comme aujourd'hui, quasiment 10 à Lille, 11 à Paris et Strasbourg, 12 pour Aurillac, 13 à Bordeaux, 14 à Lyon, 15 à Nice, 16 pour Marseille et 17 sous le soleil de Bastia.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamou de boursier.com, suivi de l'interview écho. Les cars Flixbus vont reprendre la route pour Noël. Son directeur général Yves Lefranc-Morin sera dans un instant l'invité d'Emmanuel Dutheil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h passées de 18 minutes sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamou de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street repart à la hausse ce soir dans le sillage du groupe Apple.
Oui, oui, ça monte, ça repart. Le Dow Jones plus 1,14%. 30 200 points, de nouveau au-dessus des 30 000 points, donc le Dow Jones. Le Nasdaq plus 1,25%, 12 595 points. Le fameux plan de soutien budgétaire américain pourrait enfin se décanter. Selon les dernières rumeurs, il s'agirait d'un plan de 908 milliards de dollars en deux parties. Ça aide évidemment Wall Street. Mais vous l'avez dit, c'est Apple qui fait le show ce soir. Apple grimpe de 5%, $127.88. Le groupe Apple pourrait produire jusqu'à 96 millions d'iPhone au premier semestre 2021. C'est 30% de plus que l'année dernière, grâce en particulier au succès des nouveaux modèles 5G. Apple en profite largement, donc en hausse de 5%. C'est plus calme pour Facebook, qui est stable, stable aussi Microsoft et Amazon. En revanche, IBM monte d'1,8%, $125.72. Le pétrole reste ferme au-dessus des $50 le Brent. Même chose pour l'euro, qui campe fermement au-dessus des 1,21-1,2160 face au dollar.
La bourse de Paris a terminé la séance proche de l'équilibre.
Oh oui, pas grand-chose, plus 0,04%, 5 530 points sur le CAC 40. Les grandes valeurs ont peu varié, quelques prises de bénéfices à noter quand même sur Air Liquide, moins 2%, Sanofi moins 2% aussi, Ubisoft recule de 2,5% avec Rémy Cointreau. En revanche, les banques remontent, Société Générale plus 1,9%, BNP plus 2,5%, Natixis plus 1,6%. La Banque Centrale Européenne a donné son feu vert aux banques de la zone euro pour une reprise limitée des versements de dividendes, si leur santé financière le permet. Et donc, ça anime le marché, ça anime le secteur bancaire en particulier, qui remonte ce soir de l'ordre de 1 à 2%.
Exception du jour, le titre ArcelorMittal qui a fortement progressé.
Oui, plus 7%, 18,65 € sur ArcelorMittal. L'aciériste a été poussé par la Société Générale, dopé par une note de la SG qui est repassée à l'achat sur ArcelorMittal en visant un cours de 32,50 € et en anticipant un rebond de l'activité en 2021. Ça donne donc un titre en forte hausse ce soir. Arcelor reprend 7% à la clôture. Ailleurs, les autres places financières sont en hausse. Globalement, le DAX rebondit d'1% à Francfort. Bruxelles, plus 0,7. Madrid, plus 0,1%. Et une petite hausse bien timide en Bourse de Paris, plus 0,04%. 5 530 points.
Merci beaucoup Didier Hamou de boursier.com et à demain Didier. 22h et bientôt 21 minutes sur Europe 1. On passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Yvan Lefranc-Morin.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Flixbus. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que ça y est, vous allez reprendre vos liaisons de bus dès le 17 décembre, donc c'est-à-dire dès jeudi, vos liaisons vont repartir. Vous promettez plus de 100 destinations pour ces vacances de Noël. Est-ce que déjà vous avez du monde ?
Oui, on a beaucoup de réservations qui ont commencé à arriver après l'allocution du président Macron fin novembre et qui ont accéléré depuis une semaine, depuis la confirmation qu'on va tous pouvoir bien se déplacer pendant les fêtes.
Quelles sont pour le moment les lignes qui sont les plus réservées pour cette période de fêtes ?
Alors, très honnêtement, à cette période, on a vraiment l'ensemble du réseau qui fonctionne bien. Tous les trajets fonctionnent, mais particulièrement les grands axes. Rien de très surprenant au départ de Paris ou de principales villes de France. Donc, on a par exemple du Grenoble-Lyon, du Paris-Bruxelles, du Paris-Lille ou du Lyon-Clermont-Ferrand.
Quand vous dites que vous avez plus de 100 destinations pour ces vacances de Noël, ça représente quoi par rapport à l'offre qui aurait dû être normale ?
Alors, on n'a évidemment pas le même réseau que si on avait effectué des vacances sans la crise et sans le Covid. De façon générale, on a en général environ 200 destinations qui sont desservies. Et là, on estime que pour les vacances de Noël, on va avoir environ 40% des liaisons par rapport à un hiver et des vacances de Noël normales.
On sait que les Français ont peur potentiellement d'utiliser les transports en commun. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, concrètement en place pour les rassurer dans vos bus ?
Alors, on a des protocoles sanitaires très stricts qu'on avait déjà pu éprouver lors du premier déconfinement cet été, qui avait très bien fonctionné. Je crois qu'on avait d'ailleurs vraiment bien restauré la confiance envers ce mode de transport. Donc, il s'agit de nettoyages approfondis du car avant et après chaque trajet, qui sont effectués par des professionnels. On a évidemment l'obligation absolue de porter le masque et de se désinfecter les mains et beaucoup d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, nos clients, clairement, viennent sans aucune peur dans nos cars et peuvent voyager en toute sécurité.
Vous disiez qu'après le premier confinement, vous avez eu l'impression que ce mode de transport avait été plutôt plébiscité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
On voit bien, en fait, les gens, dès lors qu'ils ont la possibilité de se déplacer, reviennent tout de suite dans les cars. En plus, on est vraiment sur un mode de transport très loisir. La majorité de nos clients se déplacent, pas pour des raisons professionnelles, mais plus pour des raisons de loisir ou personnelles. Et en fait, on voit bien que la demande revient dès lors que les restrictions sont levées. Donc, on est assez confiant également dans notre capacité à pouvoir redémarrer très fort lorsque la crise sera derrière nous. Et on espère que ça arrivera très vite.
Est-ce que c'est rentable pour vous d'ouvrir seulement cette centaine de destinations pour les vacances de Noël ?
Alors, on ne regarde pas forcément ça sur un aspect de rentabilité sur les 15 jours de Noël. D'une part, on a à cœur de pouvoir remettre à disposition des Français des modes de transport alternatifs à ce qui existe. D'autre part, on est aussi heureux de pouvoir accompagner toutes les PME avec lesquelles on travaille en France et leur permettre de retravailler et de refaire voyager les gens. Donc, il y a bien d'autres logiques qu'une pure logique économique derrière notre redémarrage pour les vacances de Noël.
Parce que si je vous pose cette question, c'est que vous avez bien évidemment vu que votre grand concurrent, un blabla bus, a lui décidé de ne rien relancer avant le printemps prochain.
Oui, alors je vais pas répondre à leur place et c'est leur choix. Nous, en tout cas, ça ne nous fait pas spécialement peur de relancer notre réseau, même à une échelle qui est plus petite que celle qu'on aurait aimé pouvoir relancer. Mais voilà, c'est notre métier. On est des vrais professionnels de ce secteur. On est leader incontesté de ce marché depuis de nombreuses années en France et je crois qu'on le démontre encore aujourd'hui.
Comment vous allez adapter l'offre ? Est-ce que là encore, en fonction des réservations qui pourraient arriver, vous allez décider de renforcer ou de supprimer sur certaines lignes ?
Alors, en réalité, on a déjà fait ce travail depuis 15 jours en regardant assez précisément l'état de la demande et des réservations. On a pu ajuster à la marge le réseau et les trajets qu'on va proposer pour les vacances de Noël. Aujourd'hui, on a un réseau qui est figé là pour les 15 prochains jours et ce réseau ne bougera pas parce qu'on sait qu'il va répondre à la demande de la meilleure des façons.
Si je vous pose la question, c'est parce qu'on ne peut plus bouger, logiquement, pour le réveillon du 31 décembre. Il y a un confinement également à ce moment-là. On sait que vous êtes très utilisé par les jeunes, notamment pour se retrouver à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu des annulations, du coup, une fois que l'on a eu la confirmation que l'on n'aurait pas le droit de bouger le soir du 31?
Alors non, on n'a pas vu un mouvement massif de réservation sur cette période. À vrai dire, on avait anticipé le fait que le réveillon serait probablement pas un réveillon classique cette année et on avait donc ajusté notre offre en conséquence. Donc on n'a pas vu là dans les derniers jours un changement de comportement de réservation très fort autour du 31.
Cette crise bien évidemment a eu un impact majeur sur votre activité puisque ces derniers mois on a très très peu voyagé. Comment vous préparez le printemps et l'été prochain? Parce que c'est maintenant que les décisions se prennent.
Oui, bien sûr, c'est maintenant, et c'est même, j'ai envie de dire, il y a déjà quelques mois qu'on travaille sur nos plans pour l'été, le printemps et l'été 2021. C'est évidemment un exercice qui est très compliqué dans la situation actuelle. On essaie de faire des prévisions les plus justes possibles, même si avec l'arrivée des vaccins et les annonces qui sont arrivées il y a quelques semaines, on commence à avoir un peu plus de visibilité sur une période à laquelle l'activité pourrait repartir. Mais notre force et notre agilité nous permettent de nous organiser un peu au pied levé.
Mais est-ce qu'on va revenir grosso modo à la normale, par exemple pour l'été prochain d'après vous?
Alors c'est ce qu'on espère fortement. Ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement avec l'arrivée des vaccins et le retour des beaux jours, puisqu'on voit bien ces derniers temps que la météo semble aussi avoir un impact sur la propagation du virus, on espère vraiment et on envisage un retour quasi à la normale pour l'été. Oui.
Eh bien, c'est ce qu'on va surveiller. En tout cas, un grand merci, Yvan Lefranc-Morin. Je rappelle que vous reprenez donc vos liaisons à partir de ce jeudi et que vous promettez une centaine de destinations pour les vacances de Noël. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Flixbus et nous, on se retrouve demain soir, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, que l'on retrouvera demain à partir de 13h avec Elisabeth Assayag. Et il sera toujours question de mobilité puisque l'invité demain de La France Bouge n'est autre que le fondateur et président de BlaBlaCar, Frédéric Mazzella. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Référendum, danger sur la liberté d'entreprise, titre l'Opinion. Le journal libéral estime qu'en jouant ce coup politique, Emmanuel Macron prend le risque de perturber l'équilibre entre la protection de la planète et le développement de l'activité économique. Pire, selon le quotidien, ce référendum ne servirait fondamentalement pas à grand chose puisque la charte de l'environnement adoptée en 2004 a d'ores et déjà une valeur constitutionnelle, valeur qui a même été réaffirmé le 31 janvier dernier par les sages de la rue Montpensier. Le travail de sauvegarde de la planète doit passer par un effort de chaque instant, non par un coup de poker, écrit Guillaume Goubert dans La Croix. Économiquement et juridiquement, c'est une initiative dangereuse, ajoute Yves Tréhard dans Le Figaro. C'est l'arbre de l'écologie qui cache une forêt de périls en perspective. Le droit d'entreprendre, celui de travailler et bien d'autres encore pourraient être remis en question, conclut l'éditorialiste du Figaro. La droite à l'état primaire, titre de son côté Libération. Le parti Les Républicains réunit demain son bureau politique pour débattre du processus de désignation de son candidat ou de sa candidate pour l'élection présidentielle de 2022. Oui, mais quel candidat? Et surtout, comment le désigner? Voilà les questions épineuses auxquelles les Républicains vont devoir répondre. Républicains encore traumatisés par la primaire de 2016. À moins de 2 ans du scrutin, aucun champion naturel, on va dire, propre à unir son camp n'a émergé, écrit Libération. Bertrand le populaire, Retailleau le conservateur, Pécresse la moderne, Wauquiez le rejeté, Dati la snipeuse, Sarkozy l'icône du sympathisant LR nostalgique. Autant de candidats potentiels, de candidats inaudibles, juge Paul Quignot dans son édito. On termine avec Marianne qui sort demain en partenariat avec Europe 1 un numéro spécial Uchronie, autrement dit un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Et si les Gilets jaunes avaient pris l'Elysée? Et si le Covid avait tué surtout les jeunes? Et si Macron avait fait comédien? Autant d'Uchronie donc à lire demain dans Marianne. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien?
Écoutez, parfaitement bien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans votre libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et on se donne rendez-vous dans une demi-heure pour le Flash à 23h.
À tout de suite.